Nouveau chapitre, ce qui concerne le catholicisme au XIXe siècle. Le XIXe siècle est un siècle au cours duquel le catholicisme va connaître une mutation profonde. Il va perdre son pouvoir temporel quasi totalement et retrouver un pouvoir spirituel qui était en perte de vitesse dans les siècles précédents. À la fin du XVIIIe siècle, le prestige de l'Église catholique est au plus bas. La Révolution française, notamment, et les contre-coups de cette dernière un peu partout en Europe, ont achevé de porter, disons, un coup à un édifice qui semble vermoulu. Et un des buts de la Révolution française, on l'a vu, c'est aussi justement de secouer l'emprise de l'Église catholique. Napoléon, au moment des guerres qui vont suivre la Révolution, va mettre à exécution, on peut dire, le projet des révolutionnaires de 89 et humilier profondément la papauté en mettant fin à son pouvoir temporel qui sera rétabli et qui sera aboli deux autres fois dans le courant du siècle. Et au moment donc où la papauté sera abolie, dans ce sens que les troupes françaises occuperont Rome, mettront fin donc aux états pontificaux, et Napoléon ira jusqu'à emprisonner le pape et le déporter à Paris. Donc c'est, on peut dire, une des humiliations les plus graves qu'ait connue l'Église catholique dans toute son histoire. Or, précisément et paradoxalement, cette humiliation de l'Église catholique va contribuer à relever son prestige spirituel, car le pape, emprisonné à Paris par Napoléon, va faire figure de martyr. Et ce faisant, le prestige de l'Église catholique, le prestige spirituel, va remonter en proportion inverse de son humiliation sur le plan temporel. Et bien que la papauté, après les guerres napoléoniennes, ait essayé de retrouver à deux autres reprises sa puissance temporelle, elle n'y parviendra pas, et le siècle, le 19e siècle, verra donc la fin définitive, n'est-ce pas, des états du pape, puisque la fin du siècle verra l'unité italienne et par conséquent la disparition, cette fois-ci définitive, des états pontificaux. Toute domination temporelle sera interdite au pape par l'État italien qui est né justement de cette unification de la péninsule. Et le pape, à la fin du siècle, se considérera comme prisonnier à Rome. Il faudra attendre Mussolini pour que la papauté retrouve un semblant de pouvoir temporel et que soit créé donc l'État du Vatican, qui est un État lilliputien minuscule, mais qui jouit d'une extraterritorialité qui permet à la papauté d'avoir encore l'illusion, jusqu'à un certain point, la réalité d'un pouvoir temporel, mais qui n'est plus évidemment que l'ombre de ce qu'elle était à l'époque de sa grandeur. Or, justement, cette évolution douloureuse pour l'Église catholique qui va se faire avec de multiples soubresauts va avoir un autre effet, c'est que l'Église catholique va être quasiment dépourvue à la fin du siècle, au début de notre siècle, de tout son pouvoir de coercition sur lequel elle avait bâti sa puissance dans les siècles écoulés, l'Inquisition, les ordres qui infiltraient les gouvernements, etc., et n'aura plus à sa disposition que des armes spirituelles. Donc l'Église catholique, volens nolens, c'est plutôt nolens que volens, n'est-ce pas, va être contrainte d'évoluer vers une entité qui sera essentiellement une entité spirituelle. Et précisément cette évolution qui s'est faite contre son gré va lui être extrêmement bénéfique. Parce que, n'étant plus qu'une puissance spirituelle. Eh bien, l'Église catholique, à la fin du siècle, au début de notre siècle, va retrouver la crédibilité qu'elle avait perdue dans les siècles précédents et aussi pendant le XIXe siècle, au moment où, justement, elle appuyait son pouvoir par des moyens de coercition qui étaient des moyens de coercition humains et temporels. Donc, la mutation de l'Église catholique qui va marquer le XIXe siècle va être une mutation extrêmement bénéfique pour le crédit, pour l'autorité spirituelle de l'institution catholique. L'évolution de l'Église catholique au XIXe siècle va être marquée par deux grands événements qui vont la bouleverser de fond en comble. Nous les avons déjà évoqués. D'une part, la révolution napoléonienne. Et puis, à la fin du siècle, l'unité italienne. Cette unité italienne va déboucher en 1902 sur un concordat avec l'État italien, où les évêques sont nommés par le gouvernement italien, mais leur nomination doit être confirmée et approuvée par le pape. Les évêques, ou les clercs d'une manière générale, reçoivent un salaire de l'État, sont donc fonctionnaires de l'État italien, et finalement, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les rapports entre l'Église et l'État italien vont être marqués par l'ambiguïté. Et l'État italien ne connaîtra pas une véritable laïcité, comme par exemple celle qui va s'instaurer pendant le XIXe siècle dans l'État français. Et c'est vrai particulièrement au niveau de l'enseignement public, où l'Église continue à avoir une part prépondérante dans une institution qui, en principe, n'est plus de son ressort, bien que un certain nombre d'ordres religieux aient été expulsés d'Italie. D'ailleurs, cette expulsion des ordres religieux, pour ne pas le nommer essentiellement les jésuites, n'est-ce pas, va faire boule de neige. Et c'est ainsi, par exemple, qu'en 1825, les jésuites sont interdits de séjour en Suisse. L'ordre jésuite est interdit sur tout le territoire de la Confédération helvétique. Et même chose en Allemagne entre 1880 et 1883, au moment où Bismarck va lancer ce qu'on appelle le Kulturkampf, c'est-à-dire le combat pour la culture et contre l'obscurantisme, qui sera un moment très difficile pour l'Église catholique allemande, sur lequel nous aurons l'occasion justement d'y revenir. Bismarck, en effet, voyez dans le catholicisme un obstacle à l'unité allemande. Finalement, le XIXe siècle est marqué par deux grands événements politiques, l'unité allemande et l'unité italienne. Jusqu'alors, l'Allemagne et l'Italie étaient des entités qui n'avaient pas d'unité politique, qui étaient morcelées en un certain nombre de petits États, qui étaient eux-mêmes la survivance du fameux Saint-Empire romain germanique, qui était uni en principe sous la couronne des Hohenzollern, d'Autriche, la maison de Habsbourg, mais finalement la maison de Habsbourg au XIXe siècle ne contrôlait plus grand-chose, sa souveraineté était théorique, n'est-ce pas, et s'étendait essentiellement sur à peu près l'Autriche actuelle, si vous voulez. Et l'Empire ensuite, qui était en train de se morceler, qui était aussi une sorte d'homme malade de l'Europe, comme l'était l'Empire ottoman, dans ce sens que cet empire avait dû, d'une part, devenir bicéphale, c'est-à-dire donner une grande autonomie à la Hongrie. Il y avait l'énorme problème des nationalités qui faisait que cet État était un État instable, avec les minorités tchèques, italiennes, les problèmes des Balkans, ce qui est aujourd'hui la Yougoslavie, les Serbes, les Croates, enfin tout ce que nous retrouvons de nos jours, tout ça a été inclus, n'est-ce pas, dans un État, en principe dans l'Empire austro-hongrois. qui en plus aussi était en principe suzerain de l'Allemagne. Bon, Bismarck, donc la Prusse, va secouer justement cette fiction d'une d'un monde germanique unifié sous la couronne des Habsbourg, et notamment les rois de Prusse, qui eux sont dans une autre dynastie, la dynastie des Hohenzollern, va devenir la rivale justement de la maison des Habsbourg, et notamment grâce à la personnalité du chancelier de Prusse, Bismarck, n'est-ce pas, qu'on appellera le chancelier de fer, qui rêve lui de recréer l'unité allemande, non pas autour de Vienne, mais autour de Berlin et autour justement de la Prusse. Pour cela, Bismarck a compris que pour que l'unité allemande se fasse, il fallait absolument une guerre avec la Prusse. Et il voyait deux guerres indispensables à l'unité allemande. D'une part, la guerre avec la Prusse, et d'autre part, la guerre avec l'Empire français, c'est-à-dire l'Empire qui, à cette époque-là, était entre les mains de Napoléon III. En 1866, éclate donc la guerre avec l'Autriche, à la suite de laquelle, effectivement, sera cimentée l'unité allemande. L'unité allemande sort donc de cette guerre austro-prussienne qui se termine par la victoire de la Prusse et qui fait que le nord des États germaniques se trouve regroupé sous l'égide de la Prusse, comme l'avait entrevu Bismarck, tandis que le sud de l'Europe de l'Est, c'est-à-dire l'Austro-Hongrie, les Balkans, etc., reste sous la domination des Habsbourg et donc sous l'Empire austro-hongrois. Trois ans plus tard, en 1870, Bismarck provoque une guerre avec la France, et cette guerre achève donc de cimenter l'unité allemande. Maintenant, ça c'est sur le plan extérieur. Sur le plan intérieur, Bismarck voit aussi un autre adversaire à l'unité allemande, c'est l'Église catholique. L'Église catholique qui est conçue comme une entité étrangère précisément parce que c'est une puissance temporelle. Bismarck ne s'attaque pas tant à l'Église catholique en tant que puissance spirituelle, mais en tant que puissance temporelle. Par exemple, le protestantisme allemand ne l'inquiète pas autant. Et donc, Bismarck va provoquer une épreuve de force avec Rome, qu'il appellera donc le Kulturkampf, combat contre l'ignorance et pour la culture. L'ignorance, l'obscurantisme, étant en l'occurrence l'Église catholique. Par la même occasion, bien sûr, les autres religions sont aussi éclaboussées, et nous allons voir dans l'Allemagne du XIXe siècle naître un courant laïque, rationaliste, qui sera la continuation des Lumières du XVIIIe siècle, n'est-ce pas, et qui sera en plus de ça nationaliste, farouchement nationaliste, antisémite, et pourrait-on dire aussi, d'une certaine manière, impérialiste, dans ce sens que l'Allemagne est conçue comme une entité destinée à présider au destin de l'Europe, à diriger l'Europe. C'est la fin de l'équilibre qui avait été, donc, comment on peut dire, mise en place savamment après la bataille de Waterloo en 1815 au congrès de Vienne, n'est-ce pas, où les puissances victorieuses de la France napoléonienne s'étaient arrangé pour créer un équilibre européen. Les Anglais en particulier veillaient particulièrement à cela tout au long du XIXe siècle et une partie du XXe siècle. La constante de la politique britannique, c'est de ne laisser aucune puissance prendre le pas sur les autres en Europe. Et l'Angleterre, qui est à la fois puissance européenne et en même temps puissance insulaire, donc qui est un petit peu en marge de l'Europe, est un petit peu l'arbitre de l'équilibre européen pendant tout le XIXe siècle. Et donc l'Angleterre avait à fond appuyé la Prusse, l'Autriche et la Russie contre Napoléon dans la mesure où la France était la puissance dominante sur le continent européen. Donc il fallait humilier la France, il fallait abattre la France, ce qui fut fait donc à Waterloo, et avec les puissances victorieuses, c'est-à-dire l'Empire austro-hongrois, la Prusse et la Russie, l'Angleterre, au Congrès de Vienne, mettant au point un équilibre délicat de qu'on appelle l'équilibre européen, qui est une constante de la politique européenne tout au long du XIXe siècle et jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, et même jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, si on veut. Bismarck, lui, rêve évidemment de mettre fin à cet équilibre européen parce que justement l'Allemagne est destinée à dominer l'Europe. Et automatiquement, évidemment, il va y avoir une réaction anglaise. L'Angleterre, ne pouvant pas accepter davantage que l'Allemagne prenne le pas en Europe, qu'elle n'avait pu accepter que la France le fasse au moment de après la Révolution française. Et par conséquent, Bismarck va tenter d'humilier et de détruire l'Église catholique à l'intérieur, et donc naît cette idéologie impérialiste qui est une catastrophe. Finalement, Bismarck était quand même un homme, lui, disons, relativement intelligent et suffisamment habile pour savoir jusqu'où il pouvait aller trop loin, et Bismarck a toujours su s'arrêter au moment où l'Angleterre s'apprêtait donc à réagir, n'est-ce pas ? Mais l'idéologie qui naîtra justement de Bismarck, après sa destitution, car finalement Bismarck finira par être destitué par l'empereur Guillaume Ier, puis ensuite par l'empereur Guillaume II qui lui succédera, les successeurs de Bismarck n'auront pas son intelligence et auront une foi aveugle dans le destin de l'Allemagne. Et alors, cet impérialisme bismarckien, prussien, n'est-ce pas, entraînera l'Europe et le monde dans les deux horribles catastrophes que furent les deux guerres mondiales qui marquèrent la première partie du XXe siècle, n'est-ce pas. On aura l'occasion de le revoir plus tard. Et l'antisémitisme qui culminera au moment de la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler trouve son origine aussi dans ce Kulturkampf, n'est-ce pas, dans ce combat contre l'influence judéo-chrétienne au profit d'un retour au vieux mythe du paganisme teuton, n'est-ce pas, moyenâgeux et pré-moyenâgeux, n'est-ce pas, de l'Antiquité. Le joyeux païen, c'est Nietzsche, c'est Wagner, c'est le romantisme allemand de toute cette période-là, c'est pas, qui glorifie justement la force brutale, etc. Bon, et qui va entraîner donc ce que l'on connaît. Alors, Bismarck impose aux prêtres de faire leurs études universitaires dans des universités d'État, contrôlées par lui. Les examens sont des examens d'État. Et le pape interdit aux prêtres de se soumettre. Donc c'est l'épreuve de force. D'autre part, Bismarck impose un programme d'État aux écoles catholiques, puis, comme nous l'avons vu aussi, il expulse les jésuites. En 1843, il confisque les biens ecclésiastiques, comme d'ailleurs ça s'était produit au moment de l'invasion napoléonienne. 1803, les troupes napoléoniennes franchissent le Rhin, pénètrent profondément à l'Allemagne. La rive gauche du Rhin est annexée à l'Empire français et par conséquent, toutes les lois qui régissent la France sont imposées à cette partie de l'Allemagne. C'est-à-dire justement toutes les lois anti-religieuses qui avaient marqué la fin de la Révolution française, même si elles s'étaient assouplies ensuite avec Napoléon. Il y a donc, par l'intermédiaire de Napoléon, pénétration aussi des idées révolutionnaires françaises, et donc a lieu ce qu'on appelle la paix de Lunéville, au cours de laquelle la Prusse, le Bade et le Württemberg demandent une paix séparée avec la France. D'ailleurs, la Bavière s'y joindra ensuite. En 1806, sous l'instigation de Napoléon, l'empereur d'Autriche François II renonce à la couronne du Saint-Empire. Donc le Saint-Empire, qui avait commencé avec Charlemagne en 800, cesse d'exister officiellement. Et déjà, on assiste, bien entendu, dans toute l'Europe de l'Est qui a été conquise par Napoléon, à un affaiblissement de la puissance de l'Église catholique que les forces françaises traquent, parce qu'elles y voient justement une force réactionnaire et une ennemie. La police d'État contrôlée par la France est particulièrement tracassière à l'endroit de l'Église catholique, et bien qu'officiellement la liberté de conscience soit garantie par la France révolutionnaire, dans les faits, n'est-ce pas, la religion catholique en particulier, beaucoup plus que la religion protestante d'ailleurs, est étroitement surveillée par les institutions mises en place par l'empereur Napoléon. L'État français va essayer de définir dans quelle mesure l'Église catholique pourra travailler, quel espace de liberté il convient de laisser aux Églises. Et petit à petit, c'est une question qui, après la chute de Napoléon, continuera à se poser dans l'Europe tout entière. Car finalement, ce qui est caractéristique de cette période, c'est que peu ou prou, toute l'Europe sera conquise par Napoléon, et toute l'Europe sera donc influencée, ouverte aux idées révolutionnaires françaises. Il y a des semences de révolutionnaires, si vous voulez, qui sont semées dans l'Europe, même après 1815, même après donc la restauration dans la plupart des États d'Europe. Le ferment qui a été semé, si vous voulez, par les idées françaises, vont faire leur chemin et trouveront leur expression dans les révolutions qui vont marquer le milieu du siècle et qui vont toucher pratiquement tous les pays d'Europe à partir de 1848. 1848, c'est l'institution de la Deuxième République en France, la chute de la monarchie de Juillet. Et par conséquent, cet événement va avoir des répercussions en chaîne dans toute l'Europe. Toute l'Europe va s'enflammer. En même temps, c'est l'époque où l'industrialisation commence à faire sentir ses effets pervers. Et avec une révolution politique, naît aussi une révolution de type social, n'est-ce pas ? C'est le début du socialisme. Les mouvements ouvriers, les révoltes ouvrières un peu partout en Europe qui se font jour et qui se conjuguent pour provoquer cette explosion, si vous voulez, une explosion à l'échelon du continent tout entier qui marque le milieu du siècle, les années qui commencent à partir de 1848 et suivantes. De ce fait, le problème de l'Église catholique, ou de l'Église en général, mais plus particulièrement de l'Église catholique, se trouve reposé par justement ces événements-là. Et déjà à partir de 1830, on a une monarchie de Juillet, le problème se trouve posé en des termes moindres, parce que là on est quand même encore dans une vision monarchiste. Bon, où l'influence du catholicisme reste grande, mais déjà l'influence est sapée à la base. Et il y a un autre événement aussi qui va contribuer à déstabiliser considérablement le catholicisme à cette période-là, c'est le romantisme. Le romantisme est un mouvement culturel, artistique, qui naît d'abord en Allemagne, dans ces années-là, avec des gens comme Goethe, etc., et qui privilégie le subjectivisme, qui d'ailleurs est l'héritier direct, si vous voulez, des idées de 89, mais transposé sur le plan culturel. C'est-à-dire qu'il y a, finalement, ce sont les idées de Rousseau qui sont reprises sur le plan artistique, culturel, littéraire, musical, etc., où on insiste essentiellement sur l'importance des sentiments. Le sentiment, parce que finalement au centre de la préoccupation des romantiques, il y a l'individu, l'étude de la psychologie de l'individu et l'expression, la libre expression des sentiments. Absolument rien ne doit faire obstacle à l'expression des sentiments. Même les barrières morales et les barrières donc religieuses ne doivent pas s'opposer à l'expression des sentiments. Les barrières aussi morales se trouvent en conflit avec la notion de liberté, qui naît justement aussi de la Révolution française. Dans quelle mesure la liberté de l'individu, condition de son bonheur, peut-elle être limitée justement par les injonctions de l'Église, les préceptes, les dogmes de l'Église, n'est-ce pas ? Au centre de la préoccupation du romantisme et d'ailleurs des Lumières, déjà du siècle dernier, du siècle précédent, il y a la notion de bonheur. L'individu, le but de la vie, c'est la recherche du bonheur, de l'épanouissement personnel, et c'est la raison pour laquelle la liberté est première, c'est la raison pour laquelle aussi les sentiments sont premiers. Le romantisme est aussi en réaction, jusqu'à un certain point, contre la Renaissance, le mouvement humaniste de la Renaissance. Et le romantisme, donc, est aussi un retour au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge avait eu mauvaise presse à partir de la Renaissance. Vous savez, la devise des réformateurs, Pax Tenebra Lux, après les ténèbres, la lumière, étant entendu que le Moyen-Âge était une période obscure. Bon, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est beaucoup plus nuancé que ça, n'est-ce pas ? Les romantiques redécouvrent le Moyen-Âge. Les romantiques s'élèvent contre le classicisme qui était justement le résultat de l'humanisme de la Renaissance, puis ensuite qui avait été codifié au moment du grand siècle de Louis XIV, sous l'influence française en particulier. Et alors que il y avait là dans le classicisme quelque chose de très ordonné, de très carré, au contraire, le romantisme donnait expression à la spontanéité, au débordement des passions, et puis aussi, n'est-ce pas, ce qui est très 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 paradoxal, mais finalement qui ne l'est pas, au moment même justement où on mettait au centre de la préoccupation des individus la recherche du bonheur, il semblerait que les romantiques cherchaient leur bonheur dans le malheur, n'est-ce pas ? Le dramatique, le tragique, n'est-ce pas ? Il y avait une glorification du côté tragique de l'existence, etc. D'où justement cette glorification du Moyen-Âge. Et c'était particulièrement vrai en Allemagne, où le Moyen-Âge allemand en particulier va être privilégié par le romantisme, et notamment sur le plan musical avec Wagner. Wagner va écrire, donc va devenir un phénomène extraordinaire, si vous voulez, qui n'a d'équivalent que le rock aujourd'hui. C'est pas la même portée. Le rock va infiniment plus loin que n'allait la musique de Wagner, mais la musique de Wagner fut une véritable révolution, pas seulement sur le plan musical ou culturel, mais sur le plan des idées tout court, n'est-ce pas ? Et au centre de la musique de Wagner, il y avait la glorification du Moyen-Âge allemand, de l'Antiquité allemande, des mythes païens de l'Allemagne pré-chrétienne, dans lequel il y a la glorification de la force brutale, de quelque chose d'un peu occulte, n'est-ce pas ? L'occultisme qui avait marqué et le Moyen-Âge et l'Antiquité pré-chrétienne, n'est-ce pas ? De telle sorte que là, il y a un engouement extraordinaire qui s'empare notamment de la nation allemande et qui est dans laquelle la nation allemande, l'âme allemande qui est justement portée vers le romantisme, vers cette espèce d'expression des sentiments, eh bien se retrouve pleinement. Et par exemple, Hitler entrait véritablement en transe quand il entendait Wagner. Hein, il passait des heures entières à écouter des enregistrements de Wagner, des choses comme ça, et assister. Bon, et là, il puisait la force, l'inspiration pour mener sa politique, son combat, etc. Enfin bon, il y a quelque chose là de tout à fait malsain dans toute. Et le romantisme donc va s'opposer au christianisme. Le romantisme, à cause de cette mise en exergue des sentiments, cette mise en exergue de l'individu, cette mise en exergue des mythes anti-chrétien et pré-chrétien, ce culte du héros, ce culte, ou du héros qui peut être un héros tragique d'ailleurs, n'est-ce pas, et qui est souvent un héros tragique. Les opéras de Wagner se terminent toujours dans le sang, n'est-ce pas, dans le drame, ça se termine toujours mal, n'est-ce pas. Pense par exemple à la fin du... Tétralogie, où ça se termine par un hymne à la riante mort. Voilà, par exemple, c'est comme ça. Bon, la riante mort, c'est Hitler. Hein, ça conduit tout droit à Hitler. Et Hitler était un homme qui avait le culte aussi du Moyen-Âge, etc. Bon, là, on est à fond dans cette mystique anti-chrétienne, et donc qui participe à ce fameux Kulturkampf, ce combat pour ce qu'on appelle, ce que Bismarck et ce que des philosophes comme Fichte, qui sont des nationalistes antisémites extrêmement virulents, n'est-ce pas, eh bien, appellent la culture, avec un grand K, en allemand ça s'écrit avec un K, n'est-ce pas, et contre l'obscurantisme représenté par le christianisme. On a Nietzsche, la religion des faibles, le christianisme qui protège le faible, qui glorifie celui qui se laisse crucifier sans résister sur la croix, qui accepte que de se laisser mener à la boucherie pour le nom de Christ, etc. C'est la morale des faibles, c'est la glorification des faibles, c'est quelque chose de méprisable, c'est quelque chose qu'il faut rejeter, n'est-ce pas ? Et vous retrouvez ça chez Hitler. Ça, c'est sûr, c'est la base du nazisme. Alors, le subjectivisme ne connaît plus aucun obstacle. Et alors, il y a destruction de l'objectivité et en même temps aussi destruction de l'autorité. C'est aussi l'époque où, justement, on privilégie la science. Et la science ne s'intéresse qu'aux faits, en fin de compte. Et en même temps, face à cette espèce de vision assez autoritariste quand même, n'est-ce pas, il y a les deux mouvements qui sont le mouvement de la démocratie, qui va éclater donc en 1848, et le socialisme, qui naît aussi à la même époque, mais comme une révolte alors. Donc ici, nous sommes dans une situation où le 19e siècle est marqué par des idéologies qui sont extrémistes et qui sont antagonistes, qui sont opposées les unes aux autres, et qui sont donc qui divisent les États d'Europe dans des entités très précises et qui sont animées par l'idéologie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de dissiper un certain nombre de mythes. La Révolution française, c'est pour, dans la mythologie française, les droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Bon, ça, c'est un mythe. La devise, par exemple, liberté, égalité, fraternité, n'a jamais été la devise des révolutionnaires de 49, mais celle de la Troisième République. Les droits de l'homme, bon, c'est autre chose, mais ils n'ont pas été mis en œuvre, justement. Ils n'ont été redécouverts aussi que c'est la Troisième République. Qu'est-ce que la Première République a apporté? Eh bien, trois choses. L'idée, donc, de l'État centralisé, centralisation jacobine, ça c'est un des apports les plus importants de la Révolution française, et surtout l'idéologie. L'idéologie comme réalité qui se veut à la fois scientifique, si vous voulez, et en même temps rationnelle, raisonnable, puisqu'il y avait au centre la raison, et qui va occulter, et qui veut occulter la religion. L'idéologie, c'est la contre-religion, et finalement, ça devient une religion laïque. C'est la déesse raison, c'est... Et qui est la déesse raison? Qui incarne la déesse raison? C'est l'État. Il y a une déification de l'État. Et finalement, l'idéologie va être un des thèmes récurrents, si vous voulez, du 19e siècle. Les idéologies vont être extrêmement diverses. Mais elles contribuent toutes, justement, à être une anti-religion. Elles contribuent toutes à créer le sentiment d'appartenir à une même communauté et par conséquent de renforcer le caractère centralisateur des États révolutionnaires, n'est-ce pas? Et c'est tout à fait typique de noter que tous les États révolutionnaires sont centralisateurs, que ce soit la France de 89 ou que ce soit la Russie stalinienne, hein, ou la Chine de Mao, n'est-ce pas? C'est des États ultra-centralisés. À l'inverse, les idéologies de droite aussi ont le même effet centralisateur, que ce soit l'hitlérisme, que ce soit le fascisme de Mussolini, que ce soit le franquisme en Espagne, n'est-ce pas? Il y a toujours, n'est-ce pas, cette espèce de ciment. Il s'agit de cimenter l'unité du peuple autour de l'État, incarné par son chef, son duché, son fourrère, n'est-ce pas, et qui a pour cela une idéologie. Une idéologie, et Marx avait bien compris, justement le parti qu'il pouvait tirer de l'idéologie. Et Marx, dans son œuvre, avait mis au centre justement de son système justement l'idéologie, une idéologie qu'il avait forgée, qui n'était pas celle obligatoirement tout à fait des révolutionnaires de 89, mais qui avait la même visée, le même but, créer justement un État centralisé dans lequel chacun se sent uni. Alors tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'idéologie, n'est-ce pas, ce sont des méchants. Finalement, la religion laïque, la religion de l'État, devient une religion encore beaucoup plus intolérante que ne l'avait été le catholicisme. Bismarck aussi crée une idéologie, l'idéologie de l'État allemand. Et c'est pourquoi il se heurte à l'Église catholique, et au christianisme d'une manière générale, mais plus à l'Église catholique, parce que l'Église catholique est aussi une entité centralisée. Et vous, nous avons là un remake, en quelque sorte, de l'Église catholique qui sert inconsciemment de modèle. L'Église catholique est le modèle de toutes les idéologies et de toutes les religions laïques. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de noter que le marxisme, par exemple, ne sera véritablement important que dans les pays où l'Église catholique est importante, ou l'Église orthodoxe, qui finalement est quand même assez proche. Hein. Russie, France, Italie, Espagne jusqu'à la réaction franquiste, etc. Donc, si vous voulez, là, pourquoi ? Parce qu'il y a une structure mentale dans le peuple qui a été forgée par l'Église catholique, qui fait que c'est très facile de transposer sur une idéologie d'État, une idéologie laïque, n'est-ce pas, les sentiments qui avaient été ceux de l'Église catholique. Et c'est pourquoi, dans le même temps, l'Église catholique est obligée de se reconvertir, si j'ose dire, si je peux employer cette expression, sans vouloir faire de jeu de mots mal placés, et d'abandonner le terrain de l'idéologie à l'État pour redevenir une réalité spirituelle. Ce qui est tout à son avantage devant Dieu, si j'ose dire. Mais sur le plan terrestre, elle y perd énormément. Alors, l'idéologie, là on peut aller faire un pas plus loin, finalement, centralisme et idéologie, eh bien, ce sont les étatismes, finalement le culte de l'État, troisième volet, eh bien, c'est la caractéristique de tous les États totalitaires et fascistes. Hein? Le fascisme est caractérisé par ça. Et alors, on assiste maintenant on arrive à cette conclusion, c'est que le fascisme, finalement, prend naissance en France, avec la Révolution française. La Révolution française sème les germes du fascisme. D'ailleurs, l'État napoléonien était une sorte de fascisme. Il n'en avait pas le titre, mais qu'il était. C'est-à-dire un État totalitaire. Pourquoi ? Parce que le catholicisme aussi est un système totalitaire. Et encore une fois, il y a transposition. Et les fascismes qui vont naître au XXe siècle, dans certains États d'Europe, sont les héritiers des idées de la Révolution française. C'est pas mis en évidence, parce que la Révolution française est au contraire considérée comme le nec plus ultra du courant progressiste, mais finalement, quand on gratte, quand on analyse, on se rend compte que c'est là que sont nés les germes de cette réalité. Alors, il y a là le refus de la faiblesse, puisqu'il faut un État fort. Donc, l'idée que l'homme est pécheur est à proscrire. Donc, il n'y a plus de place pour la rédemption et il n'y a plus de place pour l'amour. Amour, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la force, c'est le héros qui triomphe sur le champ de bataille, le sang impur qui abreuve les sillons. Quand on a l'Église, d'ailleurs, la Marseillaise, on se rend compte que c'est un chant fasciste. un sang impur, ça veut dire qu'il y a un sang, le sang des Français est pur, et le sang des ennemis de la France est un sang impur, c'est du racisme. C'est du racisme à l'état pur. N'est-ce pas ? Et c'est quand même aberrant qu'aujourd'hui, en France, on continue à chanter qu'un sang impur. J'entendais ça de l'autre jour à la Coupe du Monde. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Bon, c'est passé dans l'inconscient collectif, c'est passé dans la tradition française, mais si on voulait vraiment s'arrêter sur les choses, on se rendrait compte que là, on est à fond dans quelque chose qui est là particulièrement malsain. Alors donc, ici, on a un courant, si vous voulez, tout à fait particulier qui naît dans un certain nombre d'États réactionnaires qui vont être la Prusse, l'Autriche, le courant philosophique absolutiste va se développer. Et alors, on va avoir ici un despotisme un petit peu dans la manière de l'avaient conçu les philosophes du XVIIIe siècle, le despotisme éclairé. Mais c'est en quelque sorte l'aristocratie qui, par l'intermédiaire donc des pouvoirs, incarne l'État, incarne l'idéologie de l'État. On a un petit peu ça aussi dans la France de la Restauration, entre 1815 et 1848, qui avec quand même une évolution qui finira par aboutir au parlementarisme. Et là, donc, autour de la France, à partir de 1848, vont se créer des États constitutionnels, mais qui vont être marqués, malgré tout, par le nationalisme moderne qui va trouver son expression à la fin du siècle et au début du siècle suivant, du XXe siècle. Alors, on assiste maintenant à cette réalité nouvelle, c'est que l'évolution qui avait commencé avec l'humanisme trouve ici sa sanction, dans ce sens que ce qu'on appelle la civilisation, la culture, est maintenant totalement séparé du christianisme. Le christianisme est une réalité qui est rejetée dans la sphère du privé, comme on l'a dit la dernière fois, et qui ne doit plus jouer aucun rôle comme auteur de l'histoire. Maintenant, ce sont les idées nouvelles, les idéologies, qui vont être le moteur de l'histoire, moteur qui a été assumé par le christianisme jusqu'alors. Et le christianisme est dépouillé, désormais, justement, de sa fonction officielle, si j'ose dire. Et l'Église est désormais étrangère à la société. C'est quelque chose à côté de la société, mais qui n'en fait plus directement partie. Et la société moderne, la civilisation moderne, était l'héritière de ce subjectivisme romantique, qui s'oppose finalement à l'idée qui était celle du christianisme, du catholicisme en tout cas, d'une autorité intangible et d'une autorité de droit divin. Alors au XIXe siècle, le catholicisme va se trouver confronté à trois problèmes majeurs à cause de cette évolution des esprits. La première, la relation avec l'État. Jusqu'alors, les relations avec l'État avaient toujours été ambiguës. Et la pensée du catholicisme, c'était que l'Église avait priorité sur l'État et, étant une institution divine, devait diriger les États. Et il y avait eu conflit, donc, à partir du Moyen-Âge, jusque dans les temps modernes, les États n'acceptant pas d'être dirigés par l'Église. À partir du XIXe siècle, le débat est tranché définitivement. Non seulement l'État a priorité sur l'Église, mais l'Église, encore une fois, nous l'avons vu, n'a plus son mot à dire du tout dans les affaires politiques. L'Église est rejetée hors du champ de l'histoire, si j'ose dire. Donc ça, c'est le premier point avec lequel l'Église catholique a une difficulté énorme, parce qu'elle ne peut pas concevoir son rôle autrement, justement, qu'en fonction d'un pouvoir temporel. L'Église catholique, jusqu'à nos jours d'ailleurs, on n'a pas résolu ce problème, se veut un pouvoir temporel. Son royaume est de ce monde. Ça, elle ne cesse de le réaffirmer. Et Jean-Paul II le fait constamment, et on voit que Jean-Paul II rame autant qu'il peut pour retrouver, justement, pour que l'Église catholique joue à nouveau un rôle dans la société. D'où ses interventions contre l'avortement, etc. Mais bon, il y a une motivation spirituelle, mais il y a aussi ce désir de reprendre la direction du monde en main, si vous voulez. Parce que c'est un des dogmes fondamentaux de l'Église catholique. L'Église catholique se conçoit comme ça. Et la société moderne, à partir du XIXe siècle, n'en veut plus, dit ça, nous ne voulons pas. Exactement, s'il vous plaît. On peut reprendre la parole du récit de la Passion. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous, disaient les, les, les grands prêtres, hein, parlant de Jésus. Eh bien, le monde du XIXe siècle dit « Nous ne voulons plus que l'Église règne sur nous. Nous ne voulons plus. C'est terminé. » Et ça, l'Église catholique va avoir beaucoup de mal à s'en accommoder. Ça, c'est le premier point qui est un problème énorme pour l'Église catholique du XIXe siècle. Parce qu'elle prend conscience que maintenant, son rôle est terminé officiellement. Deuxième point avec lequel l'Église catholique va avoir énormément de mal, c'est le problème des relations entre la foi et la science. Le XIXe siècle est l'époque où naît le scientisme, c'est-à-dire que les découvertes scientifiques s'accélèrent grâce au progrès technique. Les découvertes techniques permettent des découvertes scientifiques et les découvertes scientifiques permettent des découvertes techniques, des progrès techniques. Par conséquent, c'est un système exponentiel qui s'accélère. Et alors naît une philosophie qu'on appelle la philosophie positiviste qui prétend qu'il n'est de vérité que scientifique et que tout ce qui n'est pas scientifique n'est pas vrai. Par conséquent, au nom de la foi, au nom de la science, on met en question la foi. La foi ne peut être prouvée scientifiquement, par conséquent, la foi n'est pas vraie. Alors il y a la réaction romantique, là nous sommes dans le paradoxe. La réaction romantique dit « mais non, au contraire, n'est-ce pas ? Les sentiments, je ressens quelque chose, je ressens une émotion religieuse, donc la religion est vraie. » Et il y a un conflit idéologique, n'est-ce pas ? Bon, mais alors il y a aussi ce positivisme scientiste. Et finalement, une espèce d'optimisme incroyable qui naît au XIXe siècle, la science va nous permettre de découvrir tout, toute la vérité. On en est bien revenu depuis. Enfin, au XIXe siècle, c'était l'idée. Et puis ensuite, la science va nous permettre de tout faire. N'est-ce pas ? Et là, c'est le vieux mythe prométhéen, n'est-ce pas ? L'homme qui s'égale à Dieu. Et c'est pour ça, c'est là que nous retrouvons l'idéologie dont nous parlions tout à l'heure. Et le scientisme va être une des composantes essentielles des idéologies du XIXe, que ce soit le marxisme, que ce soit le nazisme, que ce soit le fascisme. Que ce soit le nationalisme, n'est-ce pas ? C'est que si on met au service de l'État, au service de la société, la science, eh bien l'homme va pouvoir en quelque sorte devenir Dieu. Il sera tout puissant, il sera tout connaissant, omniscience, omnipotence, omniprésence jusqu'à un certain point, puisque maintenant les moyens de communication permettent pratiquement d'être depuis son fauteuil au stade de Montpellier où se déroule la Coupe de France, la Coupe du Monde, etc. De communiquer depuis son portable avec Melbourne, etc. Donc l'idée d'une omniscience, d'une omniprésence. Donc les trois. Qui va caractériser les idéologies du XIXe siècle, c'est leur optimisme total, leur orgueil incommensurable, n'est-ce pas ? On peut tout, on va tout savoir, on va. L'homme n'a plus besoin de Dieu, l'homme lui-même est devenu Dieu. Voilà en gros, si vous voulez, ce qui est la marque de toutes les idéologies de cette période-là. Et alors, donc, l'Église catholique se trouve confrontée à cela. Si on n'a plus besoin de Dieu, on n'a plus besoin de l'Église catholique non plus, de toute Église d'ailleurs. Et là, il va y avoir émergence, aussi parmi les idéologies qui vont marquer le 19e, de l'athéisme. L'athéisme avait toujours plus ou moins existé, bien sûr, depuis les origines, depuis l'Antiquité, mais aucun État, on peut dire, aucun pouvoir politique n'avait assis son pouvoir sur l'athéisme. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les pouvoirs politiques vont s'afficher athées et se déclarer athées et militer pour l'athéisme et avoir même, on pourrait dire, la haine, comme disait l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc, comment contrebalancer cette influence du scientisme ? Ça, c'est le deuxième problème devant lequel l'Église catholique au XIXe siècle se trouve confrontée. Troisième problème, qui n'est pas nouveau dans l'Église catholique, mais qui continue à être lancinant à cette période de son histoire, c'est l'unité de l'Église catholique. L'unité qui a été brisée d'abord par le schisme orthodoxe en 1053, puis par la réforme du XVIe siècle, la réforme protestante, mais aussi par le fait qu'à l'intérieur de l'Église catholique au XIXe siècle, des courants de désunion vont agir, parce que justement, les idéologies qui sont à l'œuvre dans la société européenne du XIXe siècle vont aussi travailler l'Église catholique en profondeur. Et l'Église catholique va avoir la chance, on pourrait dire, d'avoir des grands papes pendant le XIXe siècle, des hommes qui vont avoir une grande autorité et qui vont bloquer, alors à fond, n'est-ce pas, ce qu'on appellera en particulier le modernisme. Le modernisme, c'est précisément une relecture de la foi traditionnelle, si vous voulez, à la lumière justement des idées du 19e, des idées modernes entre guillemets, d'où le nom de modernisme qu'on lui donne. Et l'Église catholique, en la personne de ses papes, va bloquer très fort, n'est-ce pas, l'influence du modernisme. L'Église catholique va, enfin, les papes aussi vont donc réussir un autre point, n'est-ce pas, c'est de promouvoir le dogme de l'infaillibilité papale, qui va donc être proclamé à Vatican I en 1870. Vatican, le premier concile de Vatican, donc, va marquer l'apogée, si vous voulez, du système catholique. Le système catholique qui s'est élaboré sur des siècles, n'est-ce pas, arrive là à son apogée, n'est-ce pas, au moment où l'Église perd son pouvoir temporel, elle réaffirme son autorité spirituelle. Et là, elle se réorganise pour faire face justement à ces trois défis qui sont ceux du siècle, et ceux du XXe siècle aussi. Elle se réorganise comme une formation de combat, comme une véritable armée, n'est-ce pas, avec donc un général, en quelque sorte en chef, qui décide de tout. Et là, on a une organisation pyramidale, formidable puissance, qui s'impose. Et vous savez, qu'amènera par exemple Staline à dire, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le pape, combien de divisions ? Ne se rendant pas compte que le pape, de fait, n'a plus aucune division. Mais que depuis Vatican I, enfin, surtout après Vatican I, eh bien, la puissance catholique est une puissance avec laquelle même, justement, le communisme russe devra compter, parce que le catholicisme est pour une large part dans l'écroulement du communisme. Ça, c'est absolument certain. Jean-Paul Ier, en particulier, a été un homme remarquablement intelligent pour voir que l'heure de l'écroulement du communisme était venue, et qu'il suffisait de donner la chiquenaude qui allait permettre l'effondrement du communisme. Et des ouvrages récents ont fait état, n'est-ce pas, des rapports étroits que Jean-Paul II a entretenus avec Ronald Reagan pendant la fameuse décennie où il y a eu en particulier le fameux combat de solidarité, du syndicat Solidarité. Jean-Paul II était un homme qui, né en Pologne, connaissait fort bien le communisme. Et il n'avait pas de division, mais le communisme est resté sur le carreau. Alors, il y a une puissance. Il y a une puissance qui n'est plus la puissance temporelle de l'Inquisition, des croisades, etc., mais qui est une puissance avec laquelle les États modernes doivent encore compter. D'ailleurs, le Kulturkampf se terminera par la déconfiture de Bismarck. Bismarck avait eu ce mot, ni crainte, au sens propre, c'est plus les mots exacts, enfin c'était l'idée, ni au sens propre, ni au sens figuré, nous n'irons pas à Canossa. Vous savez ce que c'était Canossa, on en a parlé en son temps, les papes et les empereurs s'affrontaient, n'est-ce pas, Innocent III contre l'empereur d'Allemagne, Henri IV, et finalement Henri IV, qui avait été excommunié par le pape, n'est-ce pas, n'avait eu d'autre fin que d'autre solution que de venir implorer la levée de l'excommunication, demander le pardon du pape au monastère de Canossa, où le pape s'était réfugié. Et Innocent III avait eu la cruauté de le laisser implorer son pardon pieds nus et en chemise dans la neige pendant 3 jours, jusqu'à ce que la comtesse, qui était la patronne du couvent de Canossa, se jette aux pieds du pape et dit bah, « pardonnez-lui, n'est-ce pas ?» Alors bon, elle va ouvrir la porte du monastère et le pape avait été pardonné. C'est une humiliation terrible, n'est-ce pas ? C'est resté dans la pensée allemande, c'est comme une des pires humiliations qu'ait jamais connue la nation allemande dans la personne de son chef. Donc Canossa, c'était l'image de l'humiliation. Alors, quand il avait lancé le Kulturkampf, Bismarck avait dit « nous n'irons pas à Canossa ». Et puis, en fin de compte, il est allé à Canossa. Il a finalement dû lever toutes les mesures de restriction à l'endroit de l'Église catholique qu'il avait menées. Les papes, à nouveau, avaient triomphé sans armes. Hein, sans armes. L'Église catholique est une puissance et reste une puissance. Ça, c'est une chose à voir. Et donc, là, il va y avoir une nouvelle politique qui va être menée par les papes. Cette politique va être basée sur les concordats. On n'a plus de puissance politique, mais on peut discuter avec les États. Et précisément, Bismarck est obligé d'arriver à Canossa dans ce sens qu'il est obligé de conclure un concordat, c'est-à-dire un accord. Un accord avec les papes. Déjà, Napoléon Ier avait dû lui aussi aller à Canossa dans les mêmes conditions. Quand les troupes françaises avaient occupé Rome en 1803, puis le pape ensuite, Pie VII, avait été déporté à Paris, Pie VII n'avait pas voulu céder. Il n'avait pas voulu céder, notamment au sujet de la reconnaissance des évêques. Un des points du contentieux entre Napoléon et le pape, c'était que Napoléon voulait nommer les évêques. Et le pape devait enregistrer ce qui avait été décidé par l'État. C'était donc, encore une fois, le vieux conflit d'Henri IV et d'1903, qui avait priorité le pape ou le roi, ou les empereurs, les pouvoirs publics, pouvoirs politiques. Et bien que prisonnier à Paris, Pie VII n'avait pas cédé. Et alors, toute l'Europe catholique s'était dressée comme un seul homme en faveur du pape. Le pape, le martyr, la justice, etc. Et finalement, Napoléon avait dû céder. Il avait donc signé avec Pie VII le fameux concordat qui servira de modèle à tous les autres concordats. Finalement, le prince du pays proposait au pape une liste de noms et le pape choisissait. Puis ensuite, donc, il y avait accord. Si vous voulez, on entre dans une relation consensuelle, si vous voulez. C'est plus une position d'autorité de l'Église, mais c'est un consensus. On discute. Et finalement, on trouve des solutions qui conviennent aux deux parties, c'est-à-dire à l'Église et à l'État. Et ça va être la marque du XIXe siècle, le consensus, grâce auquel, si vous voulez, le catholicisme va occuper dans la plupart des États européens tout de même une relation privilégiée, une position privilégiée, une position que par exemple le protestantisme, dont le protestantisme bénéficiera, parce que finalement les concordats aussi sont signés dans les mêmes conditions avec le protestantisme, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne. Puis ensuite, on va retrouver à la fin du siècle la même chose en Italie, avec l'Italie de Garibaldi, n'est-ce pas ? Garibaldi aussi va signer au début du XXe siècle un concordat avec l'Église catholique. Et le concordat à peu près dans les mêmes termes. D'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de noter que même après la victoire de Franco en 1939, l'Espagne va conclure un concordat avec le Saint-Siège qui sera à peu près, si vous voulez, calqué sur le concordat de Napoléon. Le concordat de Napoléon servira de base. Ce n'est qu'au XXe siècle que la notion des concordats sera abolie à peu près partout. Il faudra attendre le milieu du siècle pour que ce soit le cas, par exemple, en Espagne, même beaucoup plus tard en Espagne, mais enfin en Amérique du Sud aussi. Les États d'Amérique du Sud avaient conclu des concordats aussi avec le Saint-Siège. Et que finalement, là, petit à petit, s'instaure l'idée de la séparation totale de l'Église et de l'État, et par conséquent de la laïcité telle que l'avait conçue notamment la Troisième République en France, n'est-ce pas ? Mais il faudra attendre notre siècle pour que ce soit ainsi. Alors donc, en même temps, nous avons dit l'incroyance totale apparaît. Et les évêques n'ont plus de puissance politique. Ça, c'est le fait nouveau. Et alors, les gens qui étaient détachés de l'Église catholique, parce que l'Église catholique était une puissance politique, se rapprochent d'elle maintenant. Et le XIXe siècle va voir un véritable renouveau du catholicisme dans toute l'Europe. Il va y avoir presque le parallèle de ce qui se passe dans le protestantisme. Le protestantisme du XIXe siècle est marqué par les réveils. Dans le catholicisme, on ne parle pas de réveil. Mais c'est un renouveau, d'ailleurs c'est le mot qu'ils emploient. Il y a un renouveau de la foi dans l'Europe du XIXe siècle. Alors qu'on pourrait croire que c'est le contraire qui va se produire. Et que les états politiques, les idéologues font tout pour affaiblir le catholicisme. C'est l'inverse qui se produit. Il y a un renouveau de la foi surprenant. Et nous allons voir qu'il y a des mouvements catholiques qui vont naître dans tous les azimuts, à la fois sur le plan de la piété, sur le plan de la pensée, sur le plan missionnaire, etc. Un foisonnement, n'est-ce pas, qui manifeste une vitalité du catholicisme qu'il faut remonter au Moyen-Âge pour retrouver une telle vitalité du catholicisme. Alors, le catholicisme ne compte, n'a plus que des âmes spirituelles à sa disposition. Il ne peut plus compter que sur la libre adhésion des hommes. Et les attaques dont le catholicisme est l'objet provoquent ce renouveau catholique. Incroyable. Bien que se mettent en place des éléments qui vont faire que le monde du XXe siècle sera un monde sans Dieu. Mais on peut dire que le XIXe siècle est le champ du cygne du catholicisme. Alors voilà, en gros, si vous voulez, comment on peut parler de cette introduction à l'histoire du catholicisme au XIXe siècle. La prochaine fois, on verra justement ce renouveau catholique. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?